CCE, vous informer et vous donner la parole.
Bonjour Chaville, il est 8h, après une petite pause pendant le week-end pascal, nous revoilà ce matin 8 avril 2024. D'abord, un petit propos liminaire, ça fait 2 ans que cette émission existe, c'est la 77e émission, et je pense que ça mérite d'être souligné. Autour de la table, fidèle à son poste, Monique Couteau, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Oui, bien, aujourd'hui nous allons aborder la question des Jeux Olympiques, et nous verrons un certain nombre de problèmes parce que la fête n'est peut-être pas populaire pour tout le monde.
Voilà qui fera peut-être écho à l'une de tes dernières chroniques où nous recevions le rédacteur en chef du journal Le Chiffon qui parlait du sport. Ensuite, nous aurons Jean Aubert qui est de retour cette semaine. De quoi vas-tu nous parler ?
Oui, je suis de retour des Carpates et donc j'ai pu constater au bout de 2 jours que j'étais de nouveau touché par des symptômes que nous connaissons tous et qui avaient totalement disparu durant mon séjour en montagne, donc gorge qui gratte, un peu de pression dans les sinus. Donc j'ai décidé de parler de l'impact de la pollution sur notre santé en Île-de-France.
Ah, mais c'est peut-être aussi que l'air des Carpates est particulièrement agréable.
Oui.
Nous enchaînerons ensuite avec la rubrique bande-annonce de Alain, qui va nous parler à nouveau de cinéma cette semaine.
Eh oui, bonjour à tous. Après les Césars et les Oscars, moi je vais vous parler de mes victoires cinématographiques de 2023.
Parfait, beau programme. Tout de suite, jingle, commençons.
Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
Oui, alors les Jeux Olympiques, pour certains donc une fête populaire, l'occasion d'être vu du monde entier, comme l'a dit le maire de Chaville à propos des épreuves qui vont se dérouler à travers la ville. Pour d'autres, par contre, des doutes, des craintes sur plusieurs conséquences de cet événement, soit des craintes nourries à l'expérience des JO dans différentes parties du monde, soit par les conditions prévues de déroulement cet été.
Alors, on a effectivement des expériences de ce qui s'est passé dans d'autres villes olympiques. C'est quoi les points d'inquiétude ?
Alors, ils portent en général sur les promesses d'héritage bénéfiques pour les habitants et promesses non tenues, et sur des mesures mises en place lors de leur préparation de ces Jeux. Sur les héritages urbains présentés comme bénéfiques pour la population, il faut dire que les JO et les Jeux paralympiques accélèrent les chantiers immobiliers en cours ou déjà prévus et s'inscrivent dans la plus grande transformation de Paris depuis celle opérée par le baron Haussmann dans la deuxième moitié du 19e, de 1853 à 1810, sous le Second Empire. À l'époque, il fallait vider le cœur de Paris de la classe laborieuse, dite la classe dangereuse. Alors pour cette 2024, en plus de la piscine olympique à Saint-Denis, de l'aréna Porte de la Chapelle, 2 villages sortent de terre pour les JO. Le village des athlètes, qui va en accueillir 14 500 plus les équipes qui les accompagnent. Village qui est réparti sur les communes de Saint-Denis, Saint-Ouen et l'île Saint-Denis. Et puis le village des médias sur la commune de Dugny, qui permettra de loger 1300 journalistes et techniciens. Ces villages ont été présentés avec l'idée d'une architecture réversible. Après quelques modifications, le village des athlètes est appelé à devenir un ensemble de logements, de bureaux, de commerces et d'équipements publics. 174 appartements ont d'ores et déjà été mis en vente aux particuliers pour un prix compris entre 6 700 € et 8 000 € le mètre carré, alors que la moyenne est entre 2 300 et 4 700 € dans cette même commune.
Oui.
Pour le village des médias, construit au sein du parc de la Courneuve, le problème est aussi écologique sur cet espace classé Natura 2000. Ce projet entérine le fait que le parc peut s'urbaniser à l'intérieur de son périmètre, une première depuis sa création en 1970, et que ce parc peut devenir ainsi un argument de vente majeur pour attirer les cadres parisiens, d'autant que depuis 2017, le carrefour Pleyel est appelé à devenir un vrai carrefour de transport de la banlieue nord. 2 autoroutes reliées A86 et A1 grâce à un nouvel échangeur construit devant la tour Pleyel et la gare Saint-Denis-Pleyel du Grand Paris Express qui va connecter 4 lignes de métro et qui prévoit d'accueillir jusqu'à 250 000 voyageurs par jour. Pas sûr que les habitants qui auront subi les nuisances de ces chantiers énormes profitent effectivement d'avantages bénéfiques. Alors un autre exemple, et à l'inverse quelque part, c'est la construction du skatepark éphémère près de l'obélisque à Paris qui va nécessiter des milliers de tonnes de béton, 2000 tonnes peut-être, bon, contre lequel le groupement interprofessionnel du secteur a dénoncé un non-sens environnemental et économique, parce que ce sport manque de structures pérennes et durables dans la capitale. Et là, ce qu'on propose, c'est on vient déverser 2000 tonnes de béton et on ne sait pas du tout ce qu'on va en faire après. Mais effectivement, il faudra l'enlever. Donc ça, c'est pour des aspects urbanistiques critiquables, on va dire.
Oui, ça c'est effectivement sur l'urbanisme, mais sur le côté plus pratique lié à la mise en place des jeux et sur le côté de la préparation, qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Alors, il faut se souvenir que devant les sénateurs en 2022, Gérald Darmanin exposait la chose suivante. Nous avons devant nous 18 mois pour faire ce travail de harcèlement et de nettoyage.
Si je regarde les Jeux Olympiques, on a un an et demi de harcèlement, de nettoyage de chacun de ces endroits.
Autrement dit, offrir des espaces urbains aseptisés, cacher les pauvres. Le revers de la médaille qui réunit 80 associations et ONG françaises travaillant avec des personnes en situation de précarité a dénoncé ce qui se passait, en particulier Porte de la Chapelle, nombre de contrôles policiers en augmentation, démantèlement des campements informels et déplacement des personnes sans abri vers des SAS régionaux ouverts au printemps 2023 en province, évacuation de foyers de travailleurs immigrés, interdiction de distribution alimentaire. Un comptage d'associations donne également plus de 4000 ressortissants de pays africains déplacés de la Seine-Saint-Denis. Le Secours catholique sonne la même alerte et appelle à prendre en compte les oubliés de la fête. L'association déplore que la France s'apprête à mettre la poussière de la pauvreté sous le tapis plutôt que de tenir la promesse de jeux solidaires. Fin janvier, la défenseure des droits s'est auto-saisie du problème et a décidé de mener une enquête indépendante pour évaluer les risques d'atteinte aux droits et libertés, ainsi que d'éventuelles situations de discrimination dans le contexte de la préparation et de l'organisation des Jeux et de l'éviction de l'espace public de personnes jugées indésirables en amont des Jeux. On a vu les mêmes choses se produire à Vancouver, Athènes, Londres, Séoul, Pékin, et les chercheurs en sciences politiques qui ont étudié ces mécanismes disent « Les JO sont une machine à amplifier les inégalités. Pour les pauvres et les marginaux, les JO sont souvent synonymes de précarité supplémentaire, souvent liées à la perte de leur logement et d'exposition à la violence. »
Oui, on invente rien là, effectivement. Et alors, on entend aussi les inquiétudes à propos de la circulation à Paris et en région Île-de-France, sachant que c'est déjà pas simple sans le contexte des JO.
Oui, beaucoup d'inquiétudes sur les transports. À un moment particulièrement chargé, celui des vacances d'été, que ce soit pour les transports du quotidien, pour ceux qui devront continuer de les emprunter, ou pour les chassés-croisés des vacances, hein, le 26 juillet, c'est la semaine effectivement entre les juilletistes et les aoûtistes, ou pour les touristes ordinaires, d'autant que certaines stations de métro seront aussi fermées et des parties de quartier seront interdites d'accès. Mais les inquiétudes, c'est aussi sur les libertés publiques. Les JO accélèrent les moyens mis en place de vidéosurveillance. Le ministre de l'Intérieur a évoqué un investissement de l'État de 1,5 million d'euros en Seine-Saint-Denis en 2022 pour l'installation de 500 caméras. Alors que les besoins sociaux dans ce département sont énormes et que les questions éducatives ou de santé, bien loin d'être traitées à la hauteur des besoins. La multiplication de la vidéosurveillance est visible dans toutes les villes qui vont accueillir des épreuves. À Chaville, au conseil municipal de février dernier, nous avons voté contre le report systématique des images des caméras de la ville vers les locaux du commissariat de Sèvres, lui donnant le pouvoir de prendre le contrôle du dispositif à tout moment. Mais il s'est passé des choses bien plus importantes à Châteauroux, enfin bon, dans toutes les villes qui vont accueillir des épreuves sportives. Alors c'est aussi le cas dans les gares et dans les trains. 17 000 caméras installées dans les gares en France, 45 000 embarquées dans les trains, la SNCF, en prévision des JO, a expérimenté des outils proches de la reconnaissance faciale, qui n'examinent pas le visage d'un individu, mais sa démarche ou sa tenue, par exemple, et permettent de le suivre sur tout le réseau. La loi JO du 19 mai 2023 a fixé un cadre à l'expérimentation de ces logiciels, jusque-là illégaux, jusqu'en mars 2025, lors d'événements sportifs ou culturels. La police, la gendarmerie, mais aussi les services de sécurité de la SNCF peuvent coupler ces intelligences artificielles aux caméras pour identifier la présence d'objets abandonnés, de mouvements de foule, de personnes au sol ou le port d'une arme. Pour Noémie Levin, juriste au sein de l'Association de défense des libertés numériques, la Quadrature du Net, cela signifie que la SNCF délègue la définition d'un comportement anormal d'un citoyen en gare à un algorithme, qui plus est développé par des sociétés pour la plupart issues de l'industrie militaire, dont la définition de la sécurité est nécessairement subjective, politique et repose sur la base d'une vision répressive et discriminante. La CNIL, face au développement de ces technologies et au premier déploiement qu'elle a pu constater ces dernières années, a lancé une consultation publique dont les résultats ont été publiés en juillet 22 et où elle s'inquiète des conséquences potentielles du développement massif des outils de vidéosurveillance algorithmique, sans remettre malheureusement en question la loi JO et l'autorisation donnée jusqu'en mars 2025. La défendeur des droits, en plus de l'enquête évoquée précédemment, entend évaluer aussi les risques de restriction de la liberté d'aller et venir dans les zones concernées par la compétition.
Ben voilà qui promet. On verra donc en mars 2025 si ces autorisations dérogatoires seront prolongées ou pas. En attendant, ben, y a des questions à se poser au-delà des libertés publiques très maintenant et en amont des JO. D'un point de vue très pratique, les Chavillois constatent les perturbations dans les transports du fait de l'échéance des chantiers qui doivent être bouclés tous avant le début des Jeux. On ne peut plus aller à Montparnasse en train pendant les week-ends. On voit aussi côté circulation du côté de Pont-de-Sèvres les chantiers. Bon, ben, ma foi, on verra comment ça va évoluer tout ça. Merci beaucoup, Monique. Donc, tout de suite, la chronique de Jean Aubert.
Terre à terre avec Jean Aubert Dufaux.
Bonjour Jean Aubert, pour ta nouvelle chronique, comme ça faisait quelques semaines qu'on ne t'avait pas vu, ça nous fait bien plaisir de te revoir. Alors, on sait qu'il y a des allergies saisonnières et de la pollution atmosphérique parmi les causes principales qui touchent la santé de nos concitoyens chavillois, jusqu'à devenir finalement un sujet d'inquiétude quasi permanent. À quoi, selon toi, cela peut-il être dû?
Alors, il y a plusieurs origines et un point commun à toutes, donc la densité urbaine. Alors je m'explique. En ce qui concerne donc les origines, on peut dire qu'elles sont de deux sortes. Alors l'exposition au pollen du fait de la grande variété d'essences présentes autour et dans notre ville, et l'exposition à une pollution urbaine et chimique dont les seuils dépassent pas forcément les normes systématiquement, mais comme elle est souvent continue, elle finit probablement par générer des troubles ORL et d'autres plus permanents tels que l'asthme.
Alors, je crois qu'il a été diffusé il n'y a pas très longtemps sur l'exposition aux polluants un documentaire qui portait sur les problèmes de santé que rencontrent au quotidien les personnes qui habitent à proximité des centres de raffinage du pétrole. Est-ce que tu considères que ce type de documentaire peut nous aider à mieux comprendre nos maux au quotidien?
Oui. Et je pense du reste que conseiller à nos auditeurs de se rendre sur le site de France Télévisions et de regarder le documentaire que tu mentionnes est important, car les effets sur nos organismes qui sont liés à l'exposition à un polluant sur la durée y sont parfaitement expliqués. Alors je me pose du reste beaucoup de questions aujourd'hui en ce qui concerne la première cause, à savoir les pollens. Il est clair que les allergies ont explosé ces dernières années. Et si les pouvoirs publics pointent systématiquement du doigt le réchauffement climatique, c'est un petit peu trop facile. En effet, il faut apprendre à lire entre les lignes pour comprendre d'où viennent les principales raisons qui amènent à ces allergies. Alors je cite le portail de l'environnement. Donc la pollution, en déformant ou transformant certains grains, accroît leur capacité à pénétrer en profondeur les voies respiratoires déjà irritées et fragilisées par cette même pollution. Donc, il est également pointé du doigt la présence très marquée des pollens des bouleaux, très allergisants. Alors, il faut savoir du reste que le bouleau est considéré comme une plante pionnière qui constitue souvent la première formation arborée lors de la reconquête ou de la colonisation des landes par la forêt. Alors, c'est notamment le cas après des coupes rases, donc j'en dirai pas plus. En ce qui concerne la seconde cause directe, à savoir la pollution atmosphérique, on considère qu'elle a baissé de 40% en 10 ans, et la mortalité qui est directement imputée aux particules ne concernerait plus qu'à peine 6000 personnes chaque année. Donc ça serait essentiellement lié à la diminution de la part du diesel comme carburant. Par contre, la responsabilité de la pollution de l'air concernerait, elle, par un décès sur 10 en Île-de-France. Donc, oui, soit environ 8000 personnes.
Au quotidien, ça peut être une souffrance, on comprend bien que...
Oui. Surtout si on le vit, pour les jeunes et des personnes très sensibles, hein, c'est presque un handicap. Donc, et ce qui est rarement mentionné dans ces analyses chiffrées, c'est l'inconfort respiratoire au quotidien, dont souffrent désormais un très grand nombre de nos concitoyens. Alors, des symptômes de rhinite aggravée qui semblent s'éterniser bien au-delà de la durée de simples rhumes des foins saisonniers, des épisodes de bronchiolite qui touchent désormais les nourrissons toute l'année, des bronchites chroniques obstructives de plus en plus fréquentes qui ne se cantonnent plus qu'aux éternels fumeurs. Donc il y a des problèmes asthmatiformes variés, il y a beaucoup de choses. Donc ces situations vécues au quotidien sont clairement handicapantes et mériteraient que les pouvoirs publics se penchent sur comment en réduire les effets et fassent preuve de davantage de transparence sur le sujet.
Oui, puisqu'on a bien identifié la causalité avec la pollution. Comment est-ce que, selon toi, peut-on réduire ces incidences ?
Alors, je pense que la première chose serait de doter chaque municipalité d'outils permettant de contrôler les expositions à différents types de polluants. Alors, les tests urinaires, par exemple, dans les écoles, que l'on peut voir dans le documentaire de France Télévisions, sont un des nombreux outils dont nous pouvons disposer. Les analyses de la qualité de l'air sont à mettre également en rapport avec les périodes de dissémination des pollens, et des analyses indépendantes de la qualité des sols sont aussi à effectuer. Si l'ensemble de nos communes se dotait des mêmes outils, nous pourrions alors avoir une cartographie et infographie de l'ensemble des polluants présents sur nos communes. Avec ce type de statistiques, on peut définir alors des taux d'exposition qui pourront alors fournir à la médecine des renseignements précieux afin de mieux associer certaines substances à certaines pathologies. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a très peu de substances considérées comme cancérigènes. Et la science parle de cancérigènes potentiels ou probables, ce qui n'en interdit pas l'usage, hélas. Hein. On l'a vu en particulier pour l'agriculture, avec le Roundup et d'autres substances. Et ça permet donc à l'industrie de continuer à produire ou à émettre certains composés. Donc nous sommes donc face à un sujet de grande ampleur et souvent handicapant, qui touche de plus en plus de nos concitoyens. Et je pense qu'il est grand temps d'agir un peu plus sur ce sujet. Donc on peut changer aussi pour influer nos pratiques d'achat. Peut-être, ce sera peut-être un facteur d'amélioration en limitant les produits contenant certaines substances qui, entre autres à la combustion, se retrouvent dans l'atmosphère. Donc il s'agit des emballages plastiques, des produits dérivés pétroliers. Il est aussi du ressort, je pense, des pouvoirs publics de prendre en compte leurs responsabilités ainsi que celles des industriels afin de mieux prendre en charge les pathologies sans qu'elles deviennent, en plus d'un handicap, un surcoût pour les familles. Donc il est aussi nécessaire et urgent, et on ne fait que le répéter sur notre antenne, de changer de paradigme, donc de mettre fin à une certaine forme de densification urbaine et de faire évoluer nos pratiques alimentaires. Ça contribuera immanquablement à une meilleure qualité de vie. En tout cas, je ne peux que constater que lorsque l'on se trouve dans des zones à très faible densité urbaine avec de très grands espaces, peu ou pas d'industrie, et de vastes zones forestières, les allergies et autres désagréments disparaissent malgré la présence de pollen. Donc il y a bien quelque chose qui vient charger les pollens. Donc le sommeil aussi redevient réparateur, c'est très important. Et lorsque l'on retourne à notre contexte urbain en Île-de-France, hein, les symptômes réapparaissent quasi immédiatement. Alors, je propose de se poser une fois de plus cette question: quel monde voulons-nous laisser à nos enfants et petits-enfants ? Et agissons en conséquence. Et je pense que la consultation publique prochaine concernant le futur PLUI, on en a parlé la semaine dernière, pourra également être un moyen d'expression pour tous ceux qui, comme moi, souffrent de problèmes pulmonaires liés à la densification urbaine.
C'est effectivement une piste intéressante, l'alternative étant 20 000 Chavillois en vacances dans les Carpates.
Oui.
Merci beaucoup Jean-Aubert. Tout de suite, on enchaîne avec la rubrique bande-annonce.
Bande-annonce avec Alain de Frémont.
Bonjour Jonathan, bonjour à tous. Vous n'avez peut-être pas vu ces films, ou vous n'avez peut-être pas entendu parler de ces films, mais j'aimerais vous proposer mon palmarès des films français et étrangers de 2023.
Oui, parce qu'il y a plus de 100 films français qui sont sortis l'an dernier. C'est quoi tes trois préférés, finalement ?
Alors d'abord, je n'ai pas tout vu.
Oui.
Ces 100 films, je n'ai pas pu les voir, ni envie de voir certains. Bon, je mets entre parenthèses Anatomie d'une chute, le film de Justine Triet qui a été multi-récompensé.
Bien sûr.
Mais je pense que tout le monde en a parlé. J'ai fait un petit classement sur les films français. En numéro 3, j'ai mis le film de Laetitia Colombani, La Tresse, qui tiré de son propre roman qu'elle a mis en scène. C'est un film qu'il faut voir sans trop savoir de quoi ça parle, parce qu'on a beaucoup plus d'intérêt à suivre le film, parce que bon, c'est trois destins de femmes différents en Inde, en Italie et au Canada. Mm-hmm. Et on a des constamment retours d'un pays à l'autre, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer, comment les trois destins vont s'imbriquer, et on est complètement captivé à la fin par ce film, qui est donc réalisé par Laetitia Colombani. En numéro 2, c'est un film qui est presque passé inaperçu, qui s'appelle Le Ravissement. C'est le premier long métrage d'une jeune réalisatrice qui s'appelle Iris Kaltenbach, et qui est une sorte de destin terrible d'une jeune femme, d'après une histoire vraie. C'est une jeune femme donc, qui vient d'être rompre avec son amie. Et elle est sage-femme. Et sa meilleure amie, avec qui elle entretient des relations très fortes depuis longtemps, vient d'accoucher. Et petit à petit, elle va s'approprier l'enfant de son amie pour arriver à combler le manque qu'il y a dans sa vie. C'est un film poignant, bouleversant, qui est porté par l'actrice qui n'est pas très connue, qui s'appelle Afisa Erzi. Le fait aussi que ce film emballe tout le monde, comme La Tresse, c'est qu'on n'y trouve pas des acteurs connus. Donc on entre, à mon sens, beaucoup plus facilement dans l'histoire. Et enfin, alors là, je viens de dire le contraire, c'est le film que j'ai préféré, il est porté par une pléiade d'acteurs très connus et formidables, qui est « Je verrai toujours vos visages ». J'avais eu l'occasion de vous en parler. Mmh. Le film sur la justice restaurative. Un grand film choral qui porte beaucoup d'espoir. Voilà, donc en écrivant ça, je me suis aperçu après coup que les trois films que je vous cite ont été réalisés par des femmes, puisque « Je verrai toujours vos visages », c'est de Jeanne Herry.
Eh ben voilà, oui, mais c'est bien. Et alors, parmi les films étrangers ?
Alors là, le choix était très difficile, parce qu'il y a eu de très très grands films cette année, comme « L'innocence »,« The Fablesman », »,« Tar »,« Nostalgia », »,« Oppenheimer »,« Past Life », j'en passe, mais en numéro 3, je mettrai « Les herbes sèches » du réalisateur turc Nuri Bilge Ceylan. C'est un film qui est poignant de bout en bout, qui est très long, qui dure 3h20, mais qui passe merveilleusement bien. C'est en gros l'histoire d'un collège en Anatolie orientale où la vie d'un professeur va être complètement perturbée par une accusation de harcèlement. Il va essayer de faire face avec un collègue, puis aussi avec une autre professeure qui est là. Et tous les trois vont s'apercevoir des impasses qu'ils ont eues dans leur vie, des regrets, des remords. Et c'est vraiment un film bouleversant que je vous recommande chaudement. Dommage que vous ne puissiez pas le revoir en salle, parce que c'est à voir absolument en salle pour être enveloppé dans l'Anatolie orientale. En numéro 2, j'ai mis Empire of Light du réalisateur américain Sam Mendes. Ça se passe en Angleterre, dans les années Thatcher. Un cinéma qui tient encore, qui est magnifique d'extérieur, mais dont la moitié intérieure est délabrée. Et là, on trouve une femme interprétée par Olivia Colman, qui est remarquable, qui ne trouve plus de sens à sa vie, qui végète, qui est l'objet d'être le jouet sexuel du propriétaire de la salle, et qui va rencontrer un jeune noir qui vient d'arriver là, qui est embauché, et ils vont se lier d'une amitié qui pourrait se transformer en amour, mais très vite ils vont être attrapés par le racisme latent des années Thatcher, et le noir va être victime de méfaits terribles. C'est un film très beau. Du point de vue mise en scène, c'est superbe. La photographie et l'éclairage est magnifique. Et puis en premier, alors bon, moi, ce que j'ai adoré, c'est L'enlèvement de Mario Bellocchio. C'est un film qui m'a vraiment à la fois bouleversé, intéressé et interpellé, parce que c'est très, très, très actuel, surtout les phénomènes religieux. C'est une histoire qui se déroule sur près de 20 ans, de Bologne à Rome, dans les États pontificaux, qui représentent en gros le cinquième de l'Italie d'aujourd'hui, dont le souverain pontife est alors Pie IX. En 1858, c'est l'enlèvement du petit juif Edgardo Mortara, sous l'ordre du grand inquisiteur de Bologne, afin de l'élever dans la religion catholique, car il a été baptisé à l'insu de ses parents par une servante catholique. Donc, au lieu de la loi de l'époque, il doit être catholique. Et donc, on voit quel va être le destin extraordinaire de cet enfant. Et en voyant tous les problèmes religieux qui se posent dans ce film, on ne peut qu'être interpellé par ce qui se passe aujourd'hui. C'est vraiment un très très beau film que je vous recommande chaudement.
Merci beaucoup Alain, c'est la fin de cette émission. On rappelle que cette émission elle existe maintenant depuis 2 ans, donc j'en profite pour remercier l'ensemble de l'équipe qui s'implique et qui continue de s'impliquer pour que cette émission perdure pendant encore de nombreuses années. C'était Jonathan Bord avec toute l'équipe, à la semaine prochaine.